À Canalem, on aime l'été.
Aimer l'été, ça demande bien peu d'imagination, un vendredi encore moins. Alors, nous sommes le 27 juillet 2018 et vous écoutez Aime l'été avec François Brodeur et
Emmanuel Robitaille. Alors aujourd'hui, à l'émission, Maxime Despomerleau s'assure qu'on s'ennuie pas. Une initiative intergénérationnelle qui œuvre, elle, pour la communauté.
Les Compagnons de Montréal ont une boutique, le saviez-vous? Eh bien, vous allez le savoir parce que cette boutique-là, elle est maintenant primée, reconnue. C'est un franc succès. On parle également d'une maman qui court pour faire avancer la recherche sur les maladies infantiles.
On a également le Manitoba en activité. Et on fait marcher notre imaginaire en se posant la question « Et si? »
Bienvenue à Aime l'été!
On m'a dit que c'était Millet qui avait peint l'Angélus. Je le connais, moi, l'Angélus. Quand j'étais petit, je le sonnais. Quant à moi, la peinture, je ne la mets pas sur les Angélus. Je la mets sur les murs. C'est normal, c'est ce qui se fait le plus. Je peins une brique, un tas de briques. Dis-moi long, ça dépend comment c'est long. La rumba du pinceau, ça m'inspire le cerveau. J'étale bien mes coloris, faudrait pas que je m'étale aussi, car je refais la façade, c'est haut la façade. Tout n'est pas tellement beau. Derrière mon petit pinceau, mais avec un peu d'enduit et puis du mastic aussi, je refais la façade. Toujours, toujours la façade, ah oui. Car au fond, dans la vie, il n'y a que ça qui compte, la façade. Hein? Ah oui, une supposition par exemple, vous ne pouvez pas dire de quelqu'un, vu de dos, il a bonne mine. Hein? Non, bon, alors, toujours, toujours, toujours la façade. La rumba du pinceau. Mais c'est dangereux là-haut. Oh oui. Un jour j'ai manqué de me tuer. Je voulais peindre au pistolet. Heureusement je m'ai loupé. Heureusement sans ça. Je peins des tableaux, ça ça colle. Surtout les tableaux noirs de l'école. Je peins des toiles et j'en suis fier. Hier j'ai peint l'étoile de mer. Je peindrais bien des beaux nus. Mais personne pour moi veut poser nu. Ce ne sont plus des nus-nus. Je suis forcé, peindre des nus tout vêtu. Je suis malin aussi. Parfois je peins les habits par terre à côté du nu. La rumba du pinceau sauve les vieux tableaux. Pour conserver ses 20 ans, madame fait son ravalement, quel tourment la façade. Un monsieur comme il faut s'habillera toujours beau. Même si la chemise sous le paletot ne cache pas le bas de son dos, faut sauver la façade. Faut toujours soigner sa façade, sans ça on peut pas passer par la grande porte. La preuve, ma concierge qui est une psychologue comme on dit, ben, quand elle voit quelqu'un qui représente bien, elle lui fait prendre l'ascenseur. Mais si c'est quelqu'un qui représente moins bien, ben, elle lui fait prendre l'escalier de service. Ça lui fait les pieds qu'a dit le psychologue. La rumba du pinceau. Pour tous c'est ça qu'il faut. Car pour faire bonne figure, faut toujours un peu de peinture pour sauver la façade.
On vient d'entendre Bourvil avec la rumba du pinceau. Bourvil qui fêterait, dirais-je, son jour d'anniversaire. Ce serait sa fête aujourd'hui. Mm-hmm. Il aurait 101 ans, né
non,
André.
Bourvil est éternel, attention.
Oh, ben c'est vrai qu'à travers l'art, il est éternel. Et on va parler vernissage avec toi, Maxime. Bonjour, Maxime.
Oui, bonjour, ça va bien.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, vous-même. Là, on est en début d'émission. C'est différent de mes chroniques habituelles.
Écoute, tu es surprenante.
Oui. Alors, on commence par le vernissage.
Écoute, fais-nous, garde-toi, fais-nous plaisir et garde-nous une surprise. Vas-y avec ce que tu veux. Tu as tellement de choses à nous dire aujourd'hui parce qu'il y a tellement toujours plein de choses à faire ici à Montréal.
Tout à fait. Bien, écoute, je vais quand même te suivre, Emmanuel. Je vais commencer par un vernissage qui a lieu ce dimanche, le 29 juillet, à la Maison des Arts de Laval. C'est parce que, vous savez, il se passe des choses de l'autre bord du pont. Alors,
dis-moi pas.
On peut se rendre à Laval et c'est en fait le vernissage de la Triennale d'art contemporain banlieue. Et donc, c'est après une première manifestation présentée en 2015 pour le 50e anniversaire de la ville que le projet revient sous la forme d'une triennale. Donc, la Triennale d'art actuelle s'intéresse à l'urbanité dans une optique d'affirmation, de réflexion, de démystification et de valorisation par les arts visuels du statut de banlieusard. Statut qui, soyons honnêtes, est un peu malmené. Hein?
Je suis en train d'imaginer une tondeuse cubiste, voyez-vous, puis je...
Ben, écoutez, François, peut-être l'année prochaine, vous pourriez soumettre un projet. Cette année, en 2018, c'est 17 artistes qui ont été sélectionnés pour parler justement de ces enjeux de territoire, de migration urbaine, d'identité et des réalités des banlieues nord-américaines avec différents médiums. Je vous donne quelques exemples de ce qu'on va y retrouver. L'auteur Juliana Léveillé-Trudel a agi, si on veut, à titre de curatrice ou directrice pour le volet théâtre de la Triennale. Elle a travaillé avec des résidents de Laval durant 5 ateliers d'écriture qui vont mener à un show de storytelling sous l'appellation « Enfabulation ». L'idée de la performance, c'est vraiment de partir de leur expérience de banlieue. On parle surtout de l'arrivée en banlieue et de la présenter devant public. Donc, il y aura un texte qui sera présenté lors du vernissage dimanche et une formule spectacle complète le 12 août, même avec un comédien invité, Ahmad Hamdam. Et ce sera en plein air à la promenade du pont Viau. Et le spectacle sera repris également le 14 octobre en salle parce que la triennale se poursuit jusqu'au début du mois de novembre. Et si je fais un autre lien avec une autre forme d'art, il y a l'artiste visuel Natacha Clitendre qui s'est inspirée des lieux auxquels les participants faisaient référence dans leurs textes pour elle aller prendre des images avec une caméra 360 et pouvoir faire une forme d'installation tirée donc de ces récits. Et le 1er août, par exemple, il y a une conférence performance de Marion Lessard, l'inauguration d'un cycle de recherche sur les îles palindromes. Si vous connaissez la forme du palindrome?
Un mot qui s'écrit de la même manière à l'envers et à l'endroit.
Exactement, donc c'est le cas de Laval.
Je pensais que tu disais palindrome, s'écrit à l'envers et à l'endroit. Non, ça, c'est ce que ça veut dire. Oui, non. Oui, vas-y.
Mais donc, c'est le cas de Laval. Alors, on va voir dans les prochaines semaines cette recherche sur les manifestations locales de la forme palindromique qui sont propres à Laval. Alors, il y a plusieurs activités, des journées de la culture, évidemment, à la fin de septembre, puis plusieurs rencontres avec les artistes et commissaires au cours des prochaines semaines. Mais donc, je vous invite à découvrir vraiment banlieue, là où se prépare le futur, cette triennale des arts contemporains à la Maison des arts de Laval, particulièrement à la salle Alfred Pellan.
Et c'est 17 artistes qui seront présents. L'horaire est quand même chargé. Beaucoup de choses à se rappeler. Si jamais on s'en rappelle pas et qu'on est normal, finalement, on peut également les suivre sur Facebook pour en savoir plus.
Tout à fait.
Super. Cavalia maintenant.
Oui, Cavalia, c'était la première de Cavalia, le spectacle, en fait, le spectacle Odysseo, qui termine sa tournée à Montréal. Donc, mercredi, c'était la première. J'ai eu l'occasion de voir le spectacle. Et évidemment, c'était magique. Hein. C'est difficile d'aller chercher un autre mot. On est ému, emballé, impressionné de voir autant de chevaux sur scène. C'est 70 chevaux mâles qui sont présents et 50 artistes. Et donc, ça se passe sous le grand chapiteau blanc au coin des rues Sainte-Catherine et de l'Origny. C'est là jusqu'au 4 septembre. Alors, on alterne des numéros de cirque avec des numéros d'art équestre. Il y a plusieurs tableaux qui nous montrent différentes facettes des chevaux, la grâce, la force l'écoute des chevaux, mais aussi beaucoup d'agilité des entraîneurs ou comme je les appelle les jockeys acrobates. Des fois, c'est un peu difficile de les nommer avec tout ce qu'ils créent sur scène, donc des figures difficiles. Je veux dire, se promener sur un cheval, ils font du trick riding qu'on appelle, donc c'est le cheval qui est au galop très rapidement et un cavalier qui fait des figures dessus. Donc, se tenir debout sur le cheval, sur le côté, la tête en bas, en dessous. Ah, bon, il n'y a rien d'impossible.
Ah oui, des fois même, on envoyait là, un pied sur un cheval, l'autre pied sur un autre cheval. C'est comme... Exact. Ça n'a pas de fin.
Alors, c'est vraiment très impressionnant. Il y a deux tableaux, moi, particulièrement, qui m'ont beaucoup captivée. Ils reprennent cette idée du carrousel. Donc, le carrousel classique avec les chevaux en bois. Alors, cette fois-ci, c'est des carrousels géants, soit de bois ou qui deviennent des mâts chinois, donc où les acrobates peuvent travailler. Et sinon, une autre forme de carrousel avec quatre chevaux et quatre chevaliers, on peut dire, et qui créent encore des figures avec un numéro de tissu aérien. Vraiment, c'est pour toute la famille, c'est très accessible et on est aussi bien placé. Les gradins sont à l'italienne, donc on voit très bien tout ce qui se passe. La scénographie est particulièrement réussie et je veux dire, ça se transforme en colline, en lac, en plein milieu, en désert. Donc, voilà, un spectacle à découvrir.
Je rappelle qu'on parle du spectacle Cavalia, spectacle dont la réputation n'est plus à défendre. Et rapidement, en terminant, Maxime, Festival international Haute-Laurentide, 20e édition.
Oui, tout à fait. Alors, c'est jusqu'au 5 août. Ça commençait déjà le 5 juillet. Et c'est sous la direction artistique de Alexandre Dacosta, qui est un violoniste de renommée mondiale. Alors, évidemment, le festival a formé sa réputation sur l'offre de répertoire classique, mais présente aujourd'hui vraiment plusieurs styles de musique. Et ce week-end, le 28 juillet, j'avais relevé particulièrement cette activité, un grand concert gratuit à la salle communautaire de Val-d'Ajon, qui regroupe Alexandre Dacosta et le pianiste lauréat du prix Virginia Parker, Jean-Philippe Sylvestre, dans un concert présenté comme suit: un Stradivarius, un Steinway, deux amis, une âme. Alors, c'est vraiment une superbe occasion de s'initier à la musique classique avec les meilleurs, la crème de la crème, non seulement des artistes québécois, mais également à l'international. Plusieurs spectacles gratuits, évidemment, à venir, au Parc écotouristique des Laurentides ou alors l'Espace Théâtre de Mont-Laurier. Jean-Philippe Sylvestre sera à nouveau en spectacle pour présenter des concertos de Mozart et la légendaire symphonie numéro 5 de Beethoven. C'est le 3 août, juste avant la fin du festival. Alors, vraiment plusieurs choses à découvrir du côté des Laurentides.
Merci beaucoup, Maxime. Écoute, on sort à Montréal et je vais même vous prouver qu'on peut sortir à Winnipeg un peu plus tard dans l'émission. Vous allez voir, c'est
oui!
pousse les limites aujourd'hui.
Merci beaucoup, Maxime.
Partout. À bientôt. Bonne journée.
À bientôt. Bye-bye.
je le retrouve tôt ou tard dans le magistral de l'univers. Il faut tisser, il y a tant à faire.
Connu Daniel Bélanger, il y a tant à faire. Sans plus attendre, on va rejoindre immédiatement Pierre Liné, qui est directeur du Centre Paul Roulant. Monsieur Liné, vous êtes là?
Oui.
Bonjour, vous allez bien?
Bonjour à tous les deux, merci de nous recevoir, je vais très bien.
Merci à vous.
C'est nous qui vous remercions d'être avec nous. Écoutez, le Centre Paul, moi, quand j'y pense, vous savez, on accole des images aux organismes comme ça. Puis pour le vôtre, le mot qui me vient à l'esprit, c'est effervescent. Il se passe toujours quelque chose au Centre Paul. On fait marcher du monde, on fait jardiner du monde, on fait cuisiner du monde et on nourrit du monde. Parlez-nous un peu de ce qu'est cet organisme.
C'est vrai, vous n'êtes pas loin. Il y a certaines personnes qui, eux, utilisent l'image d'une ruche d'abeilles.
Ou d'une fourmilière.
Ou d'une fourmilière. C'est assez similaire à l'image de l'effervescence. Et puis, il y a des notions de pollinisation qu'on aime bien aussi. Donc, le roulant, en fait, est un organisme qui fait pousser de la nourriture, qui la transforme et qui la distribue de plusieurs manières. Mais surtout, ce qui a fait la renommée de l'organisme, c'est la façon qu'on a de le faire. D'abord, on engage toute la communauté dans chacun des éléments de nos services. Et ensuite, c'est les services qui sont au bénéfice en particulier la popote roulante, des personnes qui vivent en situation d'isolement social. Et qui sont des contributeurs, ce que nous on appelle des contributeurs bénéficiaires. C'est-à-dire que ce sont des gens qui reçoivent des repas et qui sont engagés dans chacun de nos programmes dont j'ai parlé, donc faire pousser de la nourriture, la transformer et puis la distribuer à travers d'autres initiatives. Et donc c'est la nourriture qu'on fait pousser dans des jardins urbains et puis une ferme périurbaine qui se situe à Seineville dans l'ouest de l'île. Mmh. Et puis la transformation se fait sur la rue Roy. Qui est près du boulevard Saint-Laurent et puis de la rue Sherbrooke à Montréal.
Et le territoire que vous desservez sur l'île de Montréal, en gros, ce serait quoi?
Donc, pour ce qui est du service de popote roulante, qui est le service initial autour duquel on s'est articulé, on s'est créé, on fait des livraisons dans 8 quartiers qui correspondent un petit peu à une périphérie autour de la montagne. Donc, dans les quartiers de Côte-des-Neiges, de Notre-Dame-de-Grâce. Et ensuite, on fait le tour en passant par Outremont, le Mile End. Et ensuite, tout ce qui est couvert par Downtown, de centre-sud jusqu'à Westmount.
OK. Vous avez aussi des jardins, vous nous l'avez dit à Seineville, vous en avez sur les toits de votre établissement. Vous cultivez quoi? Et donnez-nous une idée des volumes.
D'accord. Donc nous, on fait de la nourriture qui est considérée comme la culture maraîchère, bio-intensive, de petite surface. Donc ça, c'est beaucoup de choses. Culture maraîchère, c'est une chose à retenir. C'est que c'est
pour
des légumes,
pour les gens comme moi là, qui voudraient un peu de clarification, maraîchère, bio...
Maraîchère, c'est des légumes.
Non, je
on achète.
C'est des légumes, c'est la première chose à retenir.
Super.
Ensuite, quand on dit bio, c'est que vous comprenez qu'il n'y a pas d'intrants chimiques ou l'utilisation de pesticides.
Bonne nouvelle.
Exactement. On pourra en parler si vous voulez. C'est important la qualité de la nourriture qu'on distribue. De petites surfaces parce que au centre-ville on fait ça. On a des jardins sur les toits, des jardins en terrasse et des jardins dans la rue. Et dans l'ouest de l'île, à la ferme, on a 6 hectares, mais on n'en cultive que 3. Et bio-intensif, parce que sur ces surfaces-là, on a 240 variétés de légumes.
Okay.
Donc, c'est des rotations qui sont très rapides avec une grande variété de légumes,
c'est
parce qu'on cherche, nous, à produire une grande diversité de contenu pour la popote roulante, parce qu'on veut que les gens aient envie de la nourriture qu'on leur propose,
mm-hmm.
et aussi parce qu'on a un programme de marché fermier et un programme de panier de proximité qui offre évidemment une grande variété de produits pour que les gens aient envie de changer leur habitude alimentaire. Et puis, nous, on pense les améliorer un petit peu en cultivant de la nourriture bonne, saine, fraîche et locale.
Et tout ça est cultivé par des bénévoles?
Donc, on a une équipe qui est aussi entre 20 et 30 personnes en saison haute,
mm-hmm.
mais on a jusqu'à 350 bénévoles qui nous aident par semaine. Donc, les bénévoles sont souvent des gens qui sont en période de transition dans leur vie, qui ont envie de peut-être trouver une routine, ou qui ont envie d'apprendre à couper un oignon en 10 secondes sans pleurer, ou qui ont peut-être envie de rencontrer l'amour de leur vie en passant 3 heures à faire du désherbage dans les champs. Ils ont toutes des raisons différentes.
C'est tellement difficile de trouver un partenaire bio de nos jours.
On a un bon endroit pour ça. Et donc chacun a des motivations différentes pour pouvoir faire du bénévolat. Nous, ça nous apporte jusqu'à 350 bénévoles par semaine, ce qui est fantastique. C'est l'équivalent de, nous, on aurait besoin de 60 employés si on n'avait pas les bénévoles.
Vous célébrez cette année votre 23e anniversaire et vous vous êtes offert un cadeau bien particulier. Pouvez-vous nous en parler?
Exact. C'est un petit peu la communauté qui nous l'a fait, ce cadeau. C'est qu'on a construit un ascenseur, donc c'est un cadeau de la communauté pour la communauté. On a des jardins sur les toits qui sont assez spectaculaires, qui donnent beaucoup envie au monde de se mettre à jardiner. Donc je vais voir un jardin, on a un champ en fait sur un toit ici à Montréal, il y a 16 tonnes de terre. Qui sont sur notre toit, et c'est un toit qui permet de voir de la montagne jusqu'au fleuve. C'est très engageant. Et généralement, quand les gens y passent, ils vont avoir ensuite de changer leurs habitudes alimentaires. Ils vont rentrer chez eux et commencer à prendre simplement un bac et puis sur leur balcon à faire pousser des légumes frais, des légumes bio. Et ils vont avoir aussi envie d'acheter de la nourriture qui a poussé localement à Montréal. Et donc on s'est rendu compte du pouvoir de changement social de ces jardins sur les toits. Et on avait une sorte de malaise avec le fait que jusqu'à cette année, ces jardins n'étaient accessibles que par des escaliers. Donc il y a quelques courageux dont on portait les fauteuils roulants jusqu'au jardin, mais le cœur des personnes avec qui on travaille avec la popote roulante sont des personnes qui sont en perte d'autonomie, souvent parce qu'ils ont des enjeux de mobilité, ou ils ont différents niveaux de mobilité. Donc nous, on est tous des personnes qui ont un grand niveau de mobilité pour les personnes les plus mobiles de manière temporaire. À un moment donné, on va tous avoir des enjeux de mobilité. Et donc, il y a tout un pendant des gens avec qui ont travaillé qui n'avaient pas accès à ces jardins, qu'on a construit un ascenseur. Donc, c'est ça le cadeau. Mmh. J'ai mis un peu de temps à y venir, mais on a désormais un ascenseur qui permet d'accéder aux 2 niveaux de jardin qu'on a. Donc, des jardins en terrasse, où on a 300 bacs auto-arrosants. Et puis, ce fameux champ dont je viens parler sur le toit, donc qui permet aux personnes qui sont en fauteuil, ou avec une marchette, ou avec une poussette, ou avec une canne, de pouvoir faire des tours du jardin, pour faire du bénévolat en jardin. C'est tout un pendant de notre travail dont j'ai pas trop parlé, qui est un pendant éducatif, qui est des ateliers. On donne tout type d'ateliers en cuisine, des ateliers d'apiculture, des ateliers de culture, de cueillette de fruits urbains. Tous ces ateliers sont désormais accessibles universellement. C'est très nouveau, c'était très important pour nous d'être exemplaires dans ce domaine.
Et c'est vraiment un pas en avant. On va le dire, c'est un pas en avant pour l'accessibilité partout. Et je vous cite, M. Linné, vous avez dit « Les ascenseurs sont indispensables pour 10 % des Montréalais, nécessaires pour 40 % des Montréalais et pratiques pour 100 % d'entre eux. » Vous avez fait ça le 19 juillet dernier. Nous sommes le 27 juillet. C'est quoi la rétroaction que vous avez jusqu'à présent?
On a une salle communautaire au deuxième étage, qui est une salle qui est assez engageante, mais qui était assez peu utilisée jusqu'alors. Et en fait, tous les organismes qui travaillent avec des personnes avec différentes mobilités ou des personnes en fauteuil, des éléments comme ça, il y a une crise en fait à Montréal de l'espace communautaire accessible. Et donc tout à coup, on a eu une incroyable visibilité, et beaucoup des organismes qui travaillent avec des gens en fauteuil, etc., se sont mis à utiliser notre salle communautaire. Donc, le premier élément spectaculaire qu'on a vu par rapport à ça, c'est ça répond à un besoin, en fait, et un besoin d'espace accessible, universel à Montréal. Et qu'il y avait déjà une crise, en fait, des logements communautaires à Montréal, où les organismes communautaires ne sont pas propriétaires de leurs espaces, ont des espaces qui sont étriqués, n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir un espace grand pour pouvoir accueillir le monde. Cette crise était déjà existante, et on s'est rendu compte qu'en plus de ça, il y a une crise de l'espace accessible à Montréal. Donc on parle toujours du métro, on parle toujours, souvent quand on parle d'accessibilité, on va parler des restaurants, on va parler des boutiques et des choses comme ça, mais les gens qui sont en fauteuil et qui veulent faire du bénévolat, ont les mêmes enjeux d'accessibilité que pour aller au restaurant. Et beaucoup de ces gens sont intéressés à s'engager. C'est des gens qui sont sensibilisés à des enjeux communautaires, qui ont souvent une volonté d'engagement qui est forte. Et donc, c'est assez nouveau, en tout cas en termes d'espace à Montréal, de pouvoir permettre à des gens qui d'habitude reçoivent des services de maintenant pouvoir être bénévoles ou utiliser des espaces pour faire des rencontres.
Et ça rejoint énormément un des beaux aspects, une des belles réussites de l'organisme, qui est d'aménager une zone de vivre ensemble, un espace social qui est à la fois intergénérationnel, interculturel, et maintenant en intégrant une nouvelle, on va appeler ça une minorité, c'est quand même pas des gens majoritaires, des gens qui ont des difficultés d'accès, on favorise encore plus le vivre ensemble.
Exact, ben vous êtes gentil de dire ça. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. En fait, quand on est né, vous avez mentionné 23 ans, on est né sur le principe que les jeunes générations n'étaient pas toujours amenées à rencontrer les générations des aînés. Donc, il n'y avait pas nécessairement des espaces de rencontre ni des moments qui permettaient ces rencontres-là. Et nous, c'est en livrant des repas à domicile qu'on s'est rendu compte que ce moment où on livrait le repas, il y avait un 2 minutes ou un 10 minutes où des jeunes générations étaient amenées à avoir des conversations absolument significatives avec souvent des aînés qui constituent 80% de notre cliente popote roulante. Et que c'est un enseignement qu'on a essayé de décliner dans tous nos programmes. Et c'est pour ça qu'on est un espace communautaire. Moi, j'aime bien parler du roulant comme une communauté de personnes. Donc, c'est une communauté de personnes qui est intergénérationnelle, qui est interculturelle, effectivement. Et donc, on essaie de faire attention aux espaces qui permettent d'accueillir cette communauté-là pour qu'ils aient des occasions d'échanger et puis de faire des échanges aussi de compétences. Maintenant, on a confiance qu'on a des aînés qui vont donner maintenant des ateliers de jardinage en enseignant tout ce qu'on a un petit peu perdu au cours de ces dernières années sur ce qu'ils faisaient quand ils avaient l'âge des jeunes générations.
Eh bien, M. Liné, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne 24e année, donc, et une longue vie encore.
Et merci, félicitations infiniment pour votre initiative et votre ouverture.
Eh bien, merci à vous et à votre chaîne et à vos programmes. Je sais qu'il y a des clients de Popote Compte qui vous écoutent et c'est très précieux.
Merci, bonne fin de journée.
Bonne fin de journée. Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Toujours en cette édition du vendredi 27 juillet, Emmanuel Robitaille avec vous, toujours en compagnie de François Brodeur. Et à venir à l'émission, on parle de l'annexe, une boutique inclusive et écologique qui attire les éloges. Et on court également pour la Fondation des Étoiles.
Je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, je tourne le dos comme d'habitude.
Et puis, je m'habille très vite. Je sors de la chambre, oui, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors. solitude. J'ai trop hâte, je relève encore comme d'habitude.
Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer en persanant. Comme d'habitude, je fais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme puis, le jour sonnera, moi je reviendrai, comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher, dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Là, je les cacherai comme d'habitude.
Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attends.
Trio Taha Khaled Fodel, comme d'habitude.
Merci Maurice Bolduc qui assure la mise en onde et la direction musicale de cette émission et qui nous empêche de faire trop d'idiotie, en tout cas moi, s'entend. On remarque la déficience intellectuelle, on remarque les troubles du spectre de l'autisme. Et pour nous parler de ce qu'on ne voit pas assez, c'est-à-dire le sourire, la possibilité, l'épanouissement des gens qui sont atteints par ces problèmes-là, on a avec nous des compagnons de Montréal, nommément Chantal de Montigny et Dorian Keller. Vous êtes venus nous parler donc des compagnons de Montréal et de l'annexe. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, merci. Merci pour l'invitation.
Disent-ils tout sourire? Le sourire, il l'apporte ici. En plus, c'est le fun.
Juste pour situer nos auditeurs un peu, les compagnons de Montréal, c'est quoi et c'est où?
Alors, compagnons de Montréal existe déjà depuis 1960. Nous sommes situés sur la rue de Saint-Vallier à Montréal. Et c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif qui crée des milieux de vie, qui crée des milieux d'inclusion, d'apprentissage, stimulants pour les adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble autistique, ce que nous, on préfère appeler la différence intellectuelle. Mm-hmm. Et on fait ça dans une approche de valorisation avec le but d'autonomiser les personnes, c'est-à-dire de développer leur pouvoir d'agir au maximum de leur capacité et tout ça par l'adhésion.
OK, donc donner à la fois à la communauté, parce que ça enrichit toute la communauté quand une personne se réalise au maximum de son potentiel, et donner une forme de liberté finalement des gens qui autrement pourraient être enfermés plus dans une condition sociale que dans une condition médicale.
En fait, c'est qu'on les accompagne dans toutes les sphères de leur vie afin qu'ils puissent... En fait, nous, chez nous, on n'a que des intervenants sociaux, diplômés, formés, mais ce n'est pas des prescripteurs de remèdes. Ils ne vont pas dire, tiens, Chantal, mm-hmm. voici ce qui est la meilleure chose pour toi. C'est plutôt des explorateurs de possibles. On va étendre devant la personne les différentes routes du possible. Et cette personne-là, selon ses intérêts, son énergie qu'elle a à mettre là-dedans, ses choix personnels, elle va décider d'aller à gauche ou à droite. Et nous, on ne fait que les accompagner.
Donc, il y a pas ce jeu d'experts qui se joue dans la mesure où il n'y a pas un plan d'intervention. Je sais ce qui est bon pour toi, je vais mettre un plan d'intervention pour ces personnes-là. Il y a vraiment, c'est vraiment du, on se tient la main et on remet à la personne ses choix de vie.
Le plan d'intervention va être co-construit avec la personne.
Wow. Mm-hmm.
En fait, c'est vraiment développer le pouvoir d'agir, comme on dit. Quand on parle de milieu de vie, je pense que le terme milieu de vie est très important parce qu'on offre un petit peu tous les services ou tout ce qu'on peut retrouver en fait, dans la société. On le retrouve accompagnant pour des personnes qui sont malheureusement très souvent mises en marge en fait, de cette société-là, mm-hmm. de cette inclusion-là. Nous, on a vraiment un service résidentiel, on a des activités socio-communautaires, on a un service d'intégration socio-professionnelle, on a aussi des services à la collectivité, donc ça inclut aussi le dépannage alimentaire, des locations mm-hmm. de salles, un service traiteur, tout ça peut être aussi géré par des personnes vivant avec une différence intellectuelle. Donc on offre vraiment tous les pans qu'on peut retrouver dans une société en fait, pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent s'adapter, en fait, puissent s'habituer à... Mm-hmm. Ah, c'est ce milieu de vie.
Oui, j'ai eu le plaisir de recevoir à ce micro, là, pas tellement longtemps, les présidents d'une association d'autistes qui réclamaient le droit d'être considérés non pas comme des déficients, mais comme des différents.
Mm-hmm. Tout à fait. Tout à fait.
Mais la différence est célébrée dans notre société.
C'est pas une maladie, oui. C'est une condition, l'autisme.
Puis le terme est très délicat aussi parce que nous, on travaille avec des personnes qui vivent avec une différence intellectuelle, puis employer le mot déficience intellectuelle, c'est un petit peu remettre dans la figure de la personne quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire ni de dire parce que ce n'est pas quelque chose qu'on considère comme étant un tel. C'est vraiment une différence intellectuelle, c'est une certaine forme en fait, de sociale en fait, qui fait que ben, c'est ça, c'est des personnes qui vivent différemment du moule dans lequel on est habitué à rentrer, mais qui ont leur place aussi dans la société.
Ce que j'aime souvent dire, c'est que on part tous du point A, on s'en va au point B, on ne prend juste pas le même chemin. Mm-hmm. Hein, si on part à Québec, il y en a qui vont prendre la route, le vélo, le bateau, ils vont prendre la route, l'autoroute, ou etc. Bref, c'est la même chose avec ces personnes-là et qui souvent excellent dans des domaines où, comme toutes les personnes, il y a des domaines où ils excellent puis il y a des domaines où ils ont besoin plus d'accompagnement. Comme moi, par exemple, dans ma vie de tous les jours.
Et vous êtes à l'écoute de ces différences-là au point tel où vous êtes capable d'apporter ces gens-là dans des milieux, dans des choses à faire et à être où ça les met en valeur. Et c'est le cas de la boutique L'Annexe, entre autres services. C'est l'entreprise d'économie sociale qui vient juste de remporter le prix d'excellence du ministère de la Santé et des Services sociaux dans la catégorie soutien aux personnes et aux groupes vulnérables parce que cette boutique, L'Annexe, chez vous, n'emploie que des personnes vivant avec une différence intellectuelle.
Absolument. Et c'est un des espaces de formation qu'on a. Fait qu'en plus, c'est un tremplin de formation pour le commerce de détail, pour tout ce qui est recyclage, transformation. Et on les rapproche en cultivant leur savoir-faire puis leur savoir-être. On les rapproche du marché du travail.
Mmh. En fait, c'est des personnes qui sont sur un programme d'aide et d'accompagnement social qui est offert par Emploi Québec et qui permet justement à des personnes éloignées du marché du travail pour des raisons, des difficultés de vie ou des raisons personnelles, vont avoir de la difficulté à atteindre en fait le marché de l'emploi. Donc, c'est des personnes qui vont se familiariser avec tout ce qui est service à la clientèle, gestion d'une boutique, tout ce qui est juste manipuler de l'argent.
Avoir un horaire, avoir des tâches, avoir un horaire, suivre les directives de quelqu'un, travailler en équipe. Il y a un paquet de qualités qu'on peut développer là, dans ce milieu-là. Absolument.
Tout en ayant accès à des plateaux de formation socio-professionnelle, en fait. Nous, on parle souvent d'une boutique qui est éco-socio-responsable parce que venir magasiner à la boutique, c'est déjà un geste éco-responsable puisque c'est uniquement du matériel qui est de seconde main. Donc, tout ce que vous trouverez en boutique est déjà très bien trié. Donc, c'est de très bonne qualité, à prix très avantageux. Puis, c'est uniquement valorisé. Puis, socio-responsable, parce que ça permet de faire travailler des personnes, en fait, qui ont besoin de travailler.
Et quand vous me dites... permettez au shopping maniaque de prendre la parole, là. Qu'est-ce que j'achète chez vous?
Tout. Tout pour vous et pour chez vous.
Tout pour nous et pour chez vous. Je devine que vous ne vendez pas d'animaux.
Non.
Non, quand même pas.
C'est uniquement, je vous dirais, c'est meubles, accessoires, décorations, puis
vêtements. Vêtements, hommes, femmes, enfants, grande taille. Et c'est d'aménager dans un lieu absolument
unique. Si vous me regardez
en
grande taille, je vais complexer.
Ah,
je vais complexer. C'est moi qui le regardais.
Et c'est dans un lieu absolument unique. Je ne le décrirai pas ici. Il faut venir visiter. Ça vaut la peine.
Répétez l'adresse, s'il vous plaît.
6365 de Saint-Vallier, à deux pas du marché.
Du métro Beaubien.
Du métro Beaubien.
Et c'est ouvert de quelle heure à quelle heure?
Lundi au samedi, de 10h à 16h30.
OK, donc je vais y aller. Je vous promets que je vais y aller.
Mais vous êtes bien mieux.
Surtout si vous avez les grandes tailles. Mais en outre, les compagnons de Montréal, vous avez des projets, des programmes?
Des projets, on en a.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite dans les semaines, dans les mois, dans l'année à venir?
OK, alors, comme espace de formation, j'entendais votre précédente invitée, on rêve d'installer de l'agriculture urbaine sur notre toit, parce qu'on a un toit là, puis cultiver les légumes racines au sol, avec quelques petites poules. Ça serait un bel espace de formation pour les personnes qui se sentent moins bien à travailler à l'intérieur. Et puis, on sait que nos agriculteurs ont de la misère aussi à se trouver de la main-d'œuvre. Mm-hmm. Alors, il y aurait de la main-d'œuvre locale.
Il y aurait peut-être un partenariat à établir avec le Centre Paul, justement, et de l'expertise à transférer.
En tout cas, on a bien écouté. Oui, c'était très intéressant ce qu'on a entendu.
Canal M, créateur de liens, magnifique. Ouais. Seigneur, je vis une émotion.
Et on souhaite aussi recevoir vos dons, tout ce que vous... C'est le temps des déménagements, des réaménagements. Alors, petits meubles, vêtements, allez voir notre site Internet, vous allez nous trouver facilement.
Site Internet, c'est le www.compagnondemontréal.com, compagnon avec un S.
Exactement. Oui,
personnellement, je vis à Longueuil, on vit à Longueuil une guerre des cloches à vêtements. Est-ce que c'est le cas à Montréal aussi ou est-ce que,
oui, nous, on fait affaire avec le support, en fait, qui a un problème justement par rapport à ces cloches. Il y a beaucoup de cloches clandestines, si je puis dire. Nous, on a une cloche à la boutique, elle est identifiée, l'annexe, en fait, puis vous venez vraiment porter le stock directement à Compagnon de Montréal. Donc, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de zone grise.
On ne se mélange pas, c'est clair.
C'est très clair. Non, je voyais qu'il y a même une personne qui est décédée en essayant d'aller chercher des choses dans une cloche récemment. Elle est restée coincée, puis elle est décédée là. Bref, c'est vraiment une drôle d'époque.
Maurice, aurais-tu de la musique funèbre pour nous, s'il vous plaît?
Mais
sincèrement, on retient vraiment ça. Compagnon Montréal et la boutique L'Annexe. Merci infiniment, Dorian Keller. Merci, Chantal de Montigny. Je le dis de mémoire. Hey, mon Dieu, 100% Emmanuel. Et merci d'être venu nous parler de cette initiative et surtout la façon dont vous en parlez. On voit que vous l'avez à cœur, que vous avez très bien compris.
Merci à vous.
Voir
merci
tout beaucoup. Ce qu'on peut faire plutôt que de remarquer ce qui n'est pas, ce qui est différent.
Tout à fait, être dans le positif.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconte les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir, et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis, c'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai pu doucement faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes.
Les Cowboys fringants avec étoiles filantes. Et on parle d'étoiles filantes parce que les 22 et 23 septembre prochains aura lieu la 4e édition du défi Moi pour toi, initié par Chantal Lacroix et qui veut aider la belle cause qu'est la recherche sur les maladies infantiles en partenariat avec la Fondation des Étoiles. On en parle aujourd'hui avec une maman de 6 enfants qui courra pour la cause, et ce, pour la 2e année consécutive. Alicia Saint-Amand, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Ça va bien? En préparation, dans les préparatifs physiques?
Oui, bien, dans les préparatifs physiques, monétaires et émotionnels et tout cela, là, parce que ça touche plusieurs volets des causes comme ça. Là.
Effectivement, on met tout ce qu'on a et tout ce qu'on est à contribution, et on va en parler davantage de ce défi-là. Moi, pour toi, c'est une course à relais, tout d'abord. À quoi on s'attend?
Bien, c'est une course à relais. On part de Montréal, on s'en va à Québec. On part le samedi matin autour de 8 heures de Montréal et on arrive à Québec autour de 16 heures le dimanche après-midi. Des relais de 5 kilomètres. Puis, on est 8 membres par équipe.
C'est 250 kilomètres au total.
Mm-hmm. Oui, c'est ça.
C'est gigantesque.
C'est gigantesque, oui, mais un relais comme ça, ça se fait quand même bien. C'est pour ça qu'on a une grosse préparation aussi. T'sais, on s'entraîne très assidûment. En équipe, on a beaucoup de plaisir aussi, mais il faut être en bonne forme physique pour être capable d'accomplir ce défi-là.
Est-ce que vous faites plus d'un relais pendant la course ou vous en faites seulement un segment de 5 km? Je
c'est
dis seulement, 5... remarquez, mais moi, je mourrais au gars.
Ben, c'est des 5 km, mais tu vois, l'année dernière, comme moi, j'ai accompli 35 km dans ma fin de semaine.
Mmh.
Puis on court nuit et jour.
Il n'y a aucun arrêt?
Bien, en fait, il y a un petit arrêt là dans la nuit parce que côté sécurité, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mm-hmm. Puis on en profite pour vider les VR parce que 8 personnes dans un VR, on s'entend qu'à un moment donné, il faut les vider.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et votre équipe de 8 personnes s'appelle l'équipe Motivation Santé.
Oui.
Vous, en tant que femme, en tant que personne, vous êtes entraîneur, massothérapeute, instructrice de Zumba.
Oui.
Vous avez 6 enfants.
Oui.
2 petits-enfants, et vous
oui.
avez décidé de mettre le chapeau de capitaine de l'équipe de Motivation Santé qui participe au défi, en plus de tout le reste.
Oui.
Est-ce que vous vous ennuyez dans la vie?
Non, moi, je m'ennuie pas du tout. J'ai une vie très, très, très active.
Ouais, limite avec 6 enfants, il n'y a aucun mérite à courir, vous savez.
Hein? Non, mais quand on a cette vie-là, qu'est-ce qui vous a motivé, bon, premièrement, la première fois à participer au défi, moi
fait,
pour toi?
La première fois, c'est ma belle-sœur qui m'en a parlé. Puis là, ensemble, on a dit, ben écoute, ça serait un défi vraiment le fun à faire. Puis, tu sais, c'est côté physique, c'est un défi qui est difficile, mais le fait que c'est comme c'est à relais, c'est quand même moins difficile que si c'est un marathon, mm-hmm. par exemple. Mm-hmm. Puis, le côté de la Fondation des Étoiles, ça nous touche beaucoup aussi. On est chanceux, on a des enfants en bonne santé, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants qui ont eu de la leucémie. On a des gens dans notre équipe qui ont des enfants autistes. D'ailleurs, moi, j'ai ma plus jeune est prématurée, mais on a d'autres prématurés aussi dans l'équipe. Puis, tu sais, c'est grâce à la recherche que, comme Michel Noël, qui est dans notre équipe, ces deux garçons sont en rémission en ce moment de la leucémie. C'est grâce à la recherche, parce que recule de v'là 10 ans, mais on les sauvait pas, les enfants. Là.
Non, la létalité était beaucoup plus élevée. Est-ce que les enfants vont vous suivre d'une quelconque façon pendant votre course, genre sur Internet, sur Facebook, sur...
Bien, c'est sûr que nous, on a créé la page Facebook, l'équipe Motivation Santé, puis on met continuellement des posts là, de où on est rendu, c'est rendu à qui aller courir, de qu'est-ce qui se passe, des fois on parle. Puis oui, nos plus vieux qui ont Facebook peuvent nous suivre. Les plus jeunes, ben c'est plus un compte-rendu après, là, parce que ils suivent pas Facebook. Moi, je trouve qu'il y a des âges pour Facebook. Mm-hmm. Donc, c'est ça.
Oui, ça devrait commencer à 40 ans.
Mais là, vous nommez justement cette idée-là où vous gardez les gens informés d'où vous en êtes dans toute cette préparation-là. Vous avez parlé de préparation physique et émotionnelle. Vous avez parlé également de préparation financière, parce qu'il faut nommer que vous devez amasser en tant qu'équipe un montant de 21 000 $. Oui. Comment on s'y prend?
Bien, nous, notre équipe, on a pris la décision, on a fait un gros Zumbaton qu'on a ramassé beaucoup de
fois. Oui, bien, il faut bien utiliser nos capacités, nos habiletés, bien oui.
On a fait aussi un Kyoton, on a créé une course bénéfice qui s'appelait Motivation Santé. On a ramassé des fonds de cette façon-là. On a fait plusieurs activités comme ça, puis des commanditaires. On a plusieurs commanditaires qui suivent aussi notre cause, puis qui nous soutiennent.
OK, donc vous faites des initiatives, mais il y a également des gens ou des compagnies qui peuvent vous commanditer, c'est ce qu'on comprend?
Oui, tout à fait. Puis nos commanditaires, ils ont la chance de pouvoir avoir leur logo sur notre VR. Donc, notre VR nous représente notre équipe. Puis c'est vraiment intéressant que les gens nous soutiennent, puis de les avoir avec nous tout le long du parcours.
Donc là, vous êtes proche du but. Actuellement, la date butoir pour accumuler le montant total est le 1er août. Comment on vous aide?
Bien, vous pouvez aller faire des dons au niveau de la Fondation des Étoiles à toutes les équipes. Parce que nous, on est chanceux, ce volet-là est accompli. On a accompli le montant qu'il fallait amasser. Sinon, vous pouvez devenir commanditaire. Commanditaire, il y a beaucoup d'équipes qui recherchent encore des commanditaires. Nous, il nous reste seulement environ 1 000 $ à ramasser.
Fait que OK, on est vraiment très proche, là.
Oui, oui. Ça, on est très, très proche.
Vous avez nommé quelque chose tantôt d'important. Vous avez dit que vous aviez cette conscience-là, que vous avez de la chance d'avoir des enfants en santé et que ce n'était pas le cas de tous les participants de votre équipe.
Oui.
Par contre, la santé, elle n'est pas au rendez-vous pour tout le monde. Qu'est-ce que vous retenez du vécu de ces parents-là en tant que maman vous-même?
Bien, c'est le soutien. On veut leur apporter le soutien qu'on peut leur apporter de la façon mm-hmm. qu'on le peut. C'est certain qu'on n'est pas à l'abri. Là, tu sais, nos enfants sont en santé en ce moment, mais on n'est mm-hmm. pas à l'abri, surtout quand on pense que les cas de cancer, c'est rendu 1 sur 2, si ma mémoire est bonne. Une personne sur 2, c'est énorme. Mm-hmm. Donc, nous, juste dans notre famille, on est 2 adultes, 6 enfants, 2 petits-enfants. Si c'est 1 sur 2, un jour ou l'autre, peut-être qu'on va y goûter aussi. Moi, je pense que le soutien est très, très, très important. Puis les familles qui se sentent soutenues, ben ça aide à traverser les épreuves. Parce que c'est une épreuve qui est très, très, très difficile, un enfant malade, parce qu'on est impuissant en tant que parent. Puis on peut juste être là, puis souvent les enfants sont plus forts que les parents. Je suis presque sans mots, là, je cherche mes mots. Mm-hmm. Mais c'est le soutien, le fait de savoir qu'ils sont pas seuls là-dedans, puis que la recherche travaille pour trouver des solutions pour que justement les enfants puissent jouer dehors au lieu d'être à l'hôpital.
Et vous avez participé pour la deuxième fois. Vous voulez participer pour la deuxième fois. Une première fois, on se comprend, on est devant l'inconnu, on se dit que ça va être le fun, on sait qu'on veut aider. Qu'est-ce qui fait qu'on veut recommencer à ce moment-là?
Ben, on est un peu fou, non, ça.
Ben, oui, mais encore.
bien, c'est... On a pris la décision de recommencer une deuxième année dans le VR au retour de la première édition.
Déjà,
parce qu'on était quatre qui revenaient dans le VR, puis on était encore toutes sur l'émotion, sur l'adrénaline du défi. Puis un des participants, qui est Danny Marcineau, qui est père de trois garçons qui sont autistes, il dit « J'ai compris pourquoi on est là. » Il dit « Ça serait vraiment intéressant de le refaire encore. » On a chacun une raison pourquoi on est là, puis c'est des raisons qui sont humaines, des raisons fortes. Bébé prématuré, enfant malade, c'est juste d'en parler, j'ai des frissons. Puis c'est des causes humaines importantes, mais il y en a plein de causes. Je dis pas que les autres causes sont pas importantes, mais...
En même moment donné, il faut choisir aussi.
Faut choisir.
Et il est certain que si vous restez chez vous, ben on ne changera pas le monde, alors que ça peut très bien se faire 5 km à la fois.
Exactement. Puis la Fondation des Étoiles est quand même la plus grande source non gouvernementale de financement pour la recherche. Puis ils font des choses quand même assez extraordinaires que
ils font la différence. Je dois vous arrêter, Madame Saint-Amand, parce que le temps nous presse. Mais merci infiniment d'être venue nous partager. Et www.fondationdesétoiles.ca pour ceux qui veulent donner. Merci encore.
Bonne course, beau temps.
Vous écoutez Aime l'été.
À venir dans la prochaine demi-heure, Emmanuel nous propose un monde où on changerait une chose, une seule, et qu'est-ce que ça donnerait. Mais auparavant, je vous sors à Winnipeg.
Yeah.
Natasha Kaminski, Under My Skin. Écoutez, je vous avais dit que je vous amenais à Winnipeg après cette pièce musicale. Malheureusement, il semble que le Manitoba ne réponde plus, voilà. Alors, on change un peu les plans et on va tout de suite s'interroger. Que serait le monde si...
Effectivement, je vous ai préparé une chronique ici, aujourd'hui. Parce que on va s'intéresser aux possibilités qui touchent des phénomènes. Et j'ai choisi aujourd'hui de concentrer les « ici » sur notre charmante terre-mère, notre chère Gaïa, la Terre. Il y a des scientifiques curieux qui se sont posés certaines questions et on va aller jusqu'au bout dans ces suppositions-là. Et vous allez voir, ça peut être fascinant. Donc, tout d'abord, « ici », la Terre était vide. Et là, je parle vide creuse, avec rien à l'intérieur. Hein.
Comme dans le cerveau d'un politicien, là.
Et je vais faire comme si tu n'avais pas parlé. Et on ne s'est pas posé la question pour rien, en fait, parce que avant qu'on sache que l'intérieur de la Terre était dense, avec un noyau brûlant au milieu, l'idée que la Terre était creuse, c'était une théorie qui avait fait son chemin. Mm-hmm. On avait même avancé que la Terre contenait l'univers à l'intérieur d'elle. Donc, pourquoi pas vérifier comment se serait appliquée cette théorie si elle s'était avérée vraie? Hein? Pas bon.
Mm-hmm.
Coudonc. C'est ce qu'on va faire. En fait, la réponse, elle est assez simple et courte. La Terre pourrait simplement pas exister.
Elle s'effondrerait sous son propre poids.
Pour une raison qui est claire, la gravité. À cause de la gravité, une des plus grandes lois de la physique ici, donc clairement, avec la gravité, chaque paroi de la Terre serait attirée l'une vers l'autre, ce qui causerait un rétrécissement jusqu'à l'élimination de celle-ci. Effectivement, chacun des bouts finirait par être attiré et tout exploserait, finalement. Exploserait, mm-hmm. Casserait.
Ça serait le mot. Imploserait. Casserait. Oui, voilà.
Ça serait vraiment, vraiment ça. Donc, si on joue quand même le jeu jusqu'au bout et disons que malgré la gravité, la Terre conserve sa forme, il n'y a aucune vie qui serait possible sur Terre parce qu'il n'y aurait pas d'atmosphère. L'atmosphère, elle nous protège de vents solaires et des radiations spatiales et on a besoin d'un champ magnétique pour s'en protéger. Et vous me voyez venir ou pas? Mais le champ magnétique...
Pas de noyau qui tourne, pas de magnétosphère.
Le champ magnétique, effectivement, il est possible grâce au noyau de la Terre. Donc, la Terre a besoin de son noyau pour tout le reste. La Terre perdrait également énormément de masse. Sa masse actuelle étant majoritairement contenue à l'intérieur de celle-ci. En fait, on parle de 5,7 sextillions de tonnes. Ça, c'est le poids de la Terre.
C'est rare que j'ai la chance de me sentir petit, merci.
C'est quoi un sextillion? C'est 1 million de quintillions. C'est quoi un quintillion? C'est 1 million de quatrillions. Et un quatrillion, c'est 1 million de trillions. Pour finalement comprendre qu'un trillion, c'est 1 milliard de milliards. Je suis même pas capable de faire le chemin inverse. Poursuivons. En perdant la masse de la Terre et en gardant seulement le 0,4%, c'est ça qui arriverait, la gravité serait jamais assez forte pour nous garder sur Terre. Finalement, pour ce qui est de la possibilité de creuser pour se rendre à l'intérieur, parce que là, on se dit, on aurait dû creuser dans la Terre, il faudrait d'abord pouvoir traverser la croûte terrestre de 30 km. Et une fois ça fait, ben, l'expérience serait la même que d'être dans l'espace, soit qu'on flotterait sans accès à l'oxygène, donc il faudrait vraiment s'habiller comme des astronautes pour être à l'intérieur.
Et accessoirement, on serait en satellite autour de la Lune, parce que la Lune serait plus lourde.
François!
Bon, OK, je m'excuse, j'ai gâché la magie.
Non, t'apportes tellement ton apport! Et si la Terre était en forme de cube, maintenant? Un peu weird.
Bon, oui.
T'embarques-tu? T'embarques. OK. On y va. On l'essaie. Cette idée-là, elle provient d'une déclaration qui a été faite en 1884 par un astronome qui disait avoir découvert une planète avec cette forme-là juste au-dessus de Neptune. Et non seulement lui, mais au moins moins de 100 ans plus tard, oui, un autre homme a soutenu avoir découvert une planète cubique de laquelle il a fait même une map et des croquis des vies extraterrestres qui s'y trouveraient. Et si notre Terre, elle, était cubique? Actuellement, La sphère, c'est la forme attribuée à toutes les planètes et des raisons de création de l'univers l'explique, entre autres, le fait que la gravité soit égale tout autour en est une qui permet la vie ici. Premier constat, si la Terre était cubique, chaque pas que tu ferais serait comme faire du hiking en montagne.
Mm-hmm.
Ensuite, la gravité serait surtout concentrée dans le milieu de chacune des six faces du cube. Donc, plus on se rapprocherait des rebords, moins de chances on aurait de garder les pieds sur Terre. Même chose pour l'eau qui se trouverait également concentrée dans les milieux. Et donc, plus on s'éloignerait du milieu de chaque face du cube, plus l'environnement serait aride et rocheuse, sec, absolument inintéressante et surtout sans possibilité d'accueillir la vie comme on la connaît. Et que dire du climat? Bien, si la Terre tournait sur un axe qui traverse deux faces, le climat ressemblerait pas mal à celui qu'on a, mais si son axe traversait deux coins, un peu comme une toupie, là, on voit l'image, je le souhaite, on aurait un climat assez pareil partout. Donc, plus de grandes variations de climat extrême. Donc, ceux qui détestent l'hiver pourraient apprécier. Mais ça veut aussi dire que les climats chauds et exotiques disparaîtraient aussi. Donc, Cuba serait beaucoup moins attrayant.
Mm-hmm.
Quand même. Fait qu'il faut faire un choix. On aime la variété ou on, ou on s'empêche les extrêmes. Et si la Terre était plate maintenant? Et tu sais d'ailleurs qu'il y a une grande communauté de flat earthers actuellement, encore aujourd'hui. Et donc, la simulation me paraît très intéressante.
Il y a même un type qui construit actuellement une fusée en Arizona ou au Nouveau-Mexique dans son garage dans le but de s'élever assez haut pour pouvoir constater que la Terre est effectivement plate.
Oh oui.
C'est son projet scientifique. Là.
Ben, faut tous un but dans la vie. Hein?
Mm-hmm.
Moi, sincèrement, je me dis, tant que tu as un but puis une passion puis que ça te permet de te lever le matin, vas-y.
Oui, mais il va te vendre une grande déception, ça me fait de la peine.
Est-ce que... Donc, et si la Terre était plate? Est-ce qu'on pourrait marcher jusqu'à mettre un pied à l'extérieur de la planète, un pied à terre et un pied dans l'espace, mettons, là? La réponse, c'est non. Parce que la gravité ne le permettrait pas. Il y aurait de la gravité, mais elle serait encore une fois concentrée dans le milieu, ce qui fait qu'essayer de quitter le milieu de la Terre, ça serait quasiment impossible. Ça serait comme marcher face à un vent de 100 km/h. Ou encore, de marcher sur un tapis roulant, ça avance pas. Les arbres pousseraient en diagonale, soit du côté inverse de la gravité. Imaginez toujours une force qui pousse du même bord. Là. C'est vraiment ça. Aussi, tantôt, on parlait de marcher comme si on gravait une montagne en hiking. Cette fois-là, ça ressemblerait plus à de l'escalade. Ça serait plus comme un mur. La théorie de la Terre plate stipule également que, comme la Lune, le Soleil tournerait autour de la Terre et non le contraire. Et donc, fini le jet lag, parce que les fuseaux horaires n'existeraient pas. Et en plus, le soleil serait toujours présent autour de nous, ce qui nous donnerait le jour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y aurait pas non plus de changement de saison. Et le soleil devrait se faire un peu plus petit au risque de nous brûler vif, parce qu'on se rappelle que le champ magnétique de la Terre est ce qui nous protège du soleil, entre autres. Et si on n'a pas de noyau dans la Terre, on n'a pas de champ magnétique, on n'a pas de protection et on est tous brûlés vivants. Sans oublier l'absence de satellites.
Évidemment.
On ne peut pas avoir de satellites qui orbitent autour de quelque chose qui n'est pas rond. Donc, pas de GPS, pas de temps synchronisé comme on le connaît aujourd'hui, ce qui nous ferait peut-être pas de tort. Parce que le temps gère nos vies.
Et je vous rappelle qu'en astronomie, on considère que dans la définition même d'une planète, la forme sphérique est une nécessité. C'est d'ailleurs pour ça que, voyons, Pluton a perdu sa qualité de planète voici quelques années. On ne la considère plus comme une planète. Elle n'est pas ronde. Voilà, tant pis pour Pluton.
Tant pis pour toi. Mais gardons d'abord la forme de la planète ronde et allons plutôt vers son volume. Dernier constat. Dernière supposition, faisons marcher notre imaginaire un petit peu. Et si la Terre doublait de volume? Est-ce qu'on aurait plus d'espace vert? Est-ce que ce serait-tu fini, la surpopulation? On aurait-tu des voisins moins proches? Mettons.
On serait surtout beaucoup plus lourd.
On suppose que si la Terre doublait de volume, sa densité resterait la même et donc tout ce qui s'y trouve augmenterait de volume proportionnellement à leur volume actuel par rapport à la Terre. Est-ce que c'est une bonne chose? Pas nécessairement. Si la Terre double de volume, sa masse serait de 8 fois plus lourde et la gravité 2 fois plus forte. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand tu montes sur ta balance, le nombre qui indique ton poids serait doublé à cause de la gravité deux fois plus forte qui te pèse dessus.
Bref, choisis une balance pas trop haute.
Ben, bref, bonne nouvelle, ça veut dire que ta balance actuelle calcule un petit peu de ta gravité aussi. Fait que dis-toi que c'est pas tout à toi, ce poids-là. Notre vision serait aussi affectée. La pression sur notre crâne serait telle que la morphologie de nos globes oculaires serait affectée et ça diminuerait le fonctionnement de nos yeux. Notre espérance de vie diminuerait également, considérant le double d'effort que nos organes devraient fournir pour nous garder en vie comme le cœur. Par exemple, il faudrait également manger le double pour pallier au dédoublement d'efforts de notre corps. Et ça, c'est toujours dans l'idée que les choses restent constituées telles qu'elles le sont actuellement, bien entendu, parce que nos corps, les animaux, la végétation vont tous finir par s'adapter. Nos corps rapetisseraient pour pouvoir supporter la nouvelle pression gravitationnelle. Les plantes diminueraient également en grosseur pour avoir besoin de moins d'énergie pour faire circuler l'eau et les vitamines nécessaires à leur survie. Point positif pour certains, il ferait certainement plus chaud sur Terre, considérant le noyau de la planète qui doublerait également et qui, lui, joue un rôle crucial sur le climat de la Terre. Mais tout ceci, ce ne sont que des spéculations, mais qui sait, un jour, nos suppositions deviendront-elles réalité?
Tes yeux, coco divin.
Aime l'été, on entendait Julien Doré, Coco Caline.
Et on a retrouvé le Manitoba, oui! Laura Lucier, bonjour!
Salut, comment ça va?
Moi, ça va très bien, vous-même?
Ça va très bien, merci.
On pensait qu'il y avait tellement des activités intéressantes à Winnipeg que vous étiez déjà partie dans tous ces magnifiques festivals dont vous allez nous parler.
C'est exactement ça qui est arrivé, c'est mon Dieu!
Et je vais vous avouer que personnellement, je connaissais le Festival des voyageurs l'hiver, mais dans mon bagage culturel, il y a Pierre Lalonde qui chantait qu'à Winnipeg, les nuits sont longues, qu'il n'y a pas grand-chose à faire.
Ouais.
Bon, oui, je sais, qu'est-ce que vous voulez?
Je pense que c'est pas la première fois qu'elle l'entend.
J'en ai une coupe sur Québec vraiment, aussi, mais j'oserais pas y chanter, c'est trop dangereux.
Oh.
Alors, vous allez me parler des festivals qui vont meubler l'été à Winnipeg. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a trois?
Ben, il y en a même plus que ça. Il n'y a pas assez de temps pour parler de tout ce qui se passe.
C'est vrai, vous avez raison.
Pendant tout l'été, on a des activités hallucinantes qui se passent dans le parc Assiniboine, par exemple, le ballet dans le parc. Il y a toutes sortes de concerts qui meublent l'été, comme vous dites. Et puis, il y a aussi des activités à chaque midi. On peut aller à certains parcs dans la ville. On peut faire du yoga, du zumba, toutes sortes de choses. Alors, c'est pas nécessairement des festivals, mais c'est des choses qui se passent tout l'été. Si on veut être occupé tout le temps, là, il manque pas de choses à faire.
Est-ce que ça se passe en français, en anglais, dans les deux langues?
Ça se passe d'habitude dans les deux langues. J'aimerais vous parler de Folklorama.
Allons-y.
Ça, c'est dans toutes les langues du monde que ça se passe. Alors, il faut savoir qu'à Winnipeg, il y a une majorité anglophone. On a une minorité francophone d'à peu près 100 000 personnes. Mais nous avons beaucoup, beaucoup d'activités qui se passent en français au Centre culturel franco-manitobain. Alors, on essaye d'inclure toutes les langues du monde, surtout dans ce festival de Folklorama qui se passe sur deux semaines, du 5 au 16 août, puis on peut littéralement faire le tour du monde sans quitter la ville. Il y a 44 pavillons de partout au monde. Puis quand je dis pavillon, je veux dire un endroit où on présente deux ou trois spectacles culturels par soir, de danse, de musique, accompagné de bouffe de la région. Alors, on parle du pavillon italien, africain, belge, irlandais, brésilien, argentin, portugais, Première Nation, métis, japonais, canadien, français, bien sûr, mexicain, écossais, russe, ukrainien, et il y en a plein encore. C'est absolument super.
Je vous écoute parler, puis mon premier réflexe, c'est de vous demander, livrez-vous.
Livrez-vous parce que tu voudrais y être, tu peux pas t'y rendre. Hein? C'est ça. Quand même. T'en demandes beaucoup, François.
Alors, c'est donc deux semaines extraordinairement chargées, mais vous arrêtez pas là.
Non, c'est ça. Puis vraiment, il y a des gens qui viennent. C'est pas seulement qu'on représente le monde ici à Winnipeg. Il y a des gens qui viennent de partout, par la busload, comme on dit en anglais. Il y a plein de gens qui viennent. Il y a des bus de touristes qui sont un peu partout. Et puis c'est vraiment le fun pour les gens locaux ainsi que pour les touristes qui passent à Winnipeg. Mais c'est vrai, je n'arrête pas là. Il y a un festival du 16 au 19 août. J'ai pas eu la chance d'aller voir ça, mais je vais y aller cette année. C'est le Manitoba Electronic Music Exhibition. Alors, c'est vraiment un festival de musique électronique. Mm-hmm. Puis ça se passe dans le quartier de la Bourse à Old Market Square, en plein air. Alors, c'est dans le quartier de la Bourse où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bâtiments historiques, de la belle architecture. Et en plein milieu de ça, il y a quelque chose, un estrade qui s'appelle The Cube. C'est tout fait en métal, puis c'est un cube, et puis c'est un estrade. C'est super le fun comme atmosphère. Puis il y a de la musique électronique pour tous les goûts pendant ces jours-là, d'un peu partout au monde et d'ici au Canada. Et il y a aussi des ateliers professionnels. Alors, il y a des gens qui viennent d'un peu partout pour profiter de ces ateliers. Et puis, on peut s'attendre à voir Mr. C.J. Tripwire, The Librarian, Phil Western, Noah Pred, Synchro, Noah Johnson, Fishhead, Dunmore Park, Mollify et bien plus encore.
Oui, je me demande toujours où les DJ prennent leur nom.
Mais... Oui, c'est ça.
Dans leur imaginaire.
Oui, exactement. Je me demande, Fishhead, ça vient d'où ça?
On sait pas. OK, et il y en a un troisième.
Oui. Alors, Manifest, ça, c'est un de mes festivals préférés, vraiment, de tout l'été. C'est du 7 au 9 septembre. Alors, On se rend un peu en automne, mais d'habitude, il fait encore super beau à Winnipeg. À ce temps-là, on a des étés qui sont pas mal extrêmes en chaleur. Ça se déroule en plein centre-ville. Alors, c'est le plus grand festival qui a lieu dans notre downtown à chaque année. Il y a une grande rue, la Broadway, où est le palais législatif, de la belle architecture encore une fois. Mais on ferme la rue et puis on a ce festival qui, le nom le dit manifeste, c'est comme le festival des pluralités. Là. On vit dans une ville qui est extrêmement multiculturelle, plein de gens avec plein de différents intérêts. Alors, il y a toutes sortes de choses qui se passent, de la musique live, des vendeurs de bière, de vin, des guerres de camions de bouffe, tout ça, je veux voir. Ça sonne comme tellement le fun. Un film en plein air dans le parc, le parc Memorial, des courses de je sais pas quoi, de sacs de patates, je sais pas, du fun pour la famille. Un marché fermier avec des artisans, une zone pour les enfants. C'est 2 jours et 2 nuits de fun pour tout le monde. Alors, il faut se rendre à une manifeste du 7 au 9 septembre. C'est quelque chose.
Donc, c'est à Winnipeg, les nuits sont fun. Mm-hmm.
Ben oui, exactement. C'est... Cette chanson-là, elle a été écrite quand? Dans les années 70?
Ben oui, ben écoutez, j'ai jamais été un grand fan de Pierre Lalonde. Là. Moi, je dis ça parce qu'il passait à la radio et que ma mère l'aimait. Là. En fait, elle aimait son père, Jean Lalonde, pour être précis. Mais...
OK, c'est parfait. Mais, alors, les choses ont beaucoup changé à Winnipeg, c'est certain.
Et si on veut s'informer sur tout ça, est-ce qu'il y a des sites Internet, des pages Facebook?
Oui, il faut juste googler Tourisme Winnipeg et puis vous allez voir tous les festivals qui ont lieu dans toute l'année à Winnipeg. Et puis, on a aussi une nuit blanche à Winnipeg qui a lieu le 29 septembre. Ça continue. Comme je vous parle de comme un petit morceau de la tarte, là, c'est incroyable combien de choses se passent. C'est comme un mini Montréal, je dirais. C'est tellement multiculturel. Mm-hmm. On peut entendre toutes les langues du monde. Alors, on peut se rendre, juste googler, puis vous allez voir. Puis, il y a plein de touristes de passage de Montréal qui viennent à Saint-Boniface, mais il n'y a pas juste Saint-Boniface à voir à Winnipeg. Il faut vraiment s'aventurer dans le centre-ville, dans les autres quartiers, pour voir la beauté et la richesse de notre culture ici.
Mm-hmm. Et il y a aussi toutes les communautés avoisinantes. Je suppose qu'il y a un gros pouvoir d'attraction, autant dans l'est de l'Ontario, finalement, que dans tout le Manitoba.
Oui, exactement. Puis tout est à
dans l'ouest de l'Ontario, oui.
C'est ça. Il faut juste conduire quelques heures. On se rend à Kenora. C'est dans le bouclier canadien. On peut se rendre au chalet. On a des lacs, des plages. C'est tellement beau comme place. On est au milieu du pays, mais on est au milieu de toutes sortes de belles communautés aussi, des communautés francophones comme la Broquerie, comme Sainte-Geneviève, comme il y a toutes sortes de petites communautés qu'on peut aller visiter puis entendre le français des régions, Saint-Jean-Baptiste, etc. Alors, c'est vraiment le fun pour les touristes qui passent. Alors, j'entends du bon feedback.
Le Manitoba pour passer de belles vacances, pour secouer des préjugés, pour faire des découvertes étonnantes.
C'est bien dit.
Exactement.
Merci alors, beaucoup, Madame Lucie.
Je vous attends. Merci beaucoup.
Merci. Bon festival.
Oui, merci beaucoup. Au revoir.
C'est déjà tout avant le week-end pour nous. Merci, François.
Ça passe vite.
Effectivement, je vous souhaite un excellent week-end. Merci à Clotilde Seille à la réalisation, Anne-Marie Janson et Catherine Bourderon à la recherche. Merci, Maurice, à la régie. On se retrouve lundi midi.